Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous. Cette émission, elle n'est pas en direct, elle est enregistrée le 23 avril 2025 et nous sommes en fin de matinée. Cette semaine, on va parler de religion et vélo. Avant d'évoquer les croyances, les merci à vous qui nous écoutez, merci aussi à vous qui vous demandez comment on fait pour faire tourner Cause Commune. Eh bien c'est simple, on compte sur vos dons, parce que Cause Commune, c'est une association. Pour donner, suivez le guide sur la page d'accueil de cause-commune.fm, parce que cette radio, c'est, n'ayons pas peur des mots, votre bien commun. Avant de parler religion, parlons un peu de rayon libre. Depuis quelques temps, je vais chercher d'autres profils, des témoins qui sont un peu plus éloignés du vélo, qui ne sont pas nécessairement passionnés par le vélo, des personnes qui ne viennent pas raconter leur vélo. Doucement, le vélo devient soit une clé d'entrée, soit un prétexte, un point commun en tout cas. Il y a ce mouvement photographique que vous connaissez peut-être, ce Accidentally Wes Anderson, ces personnes qui font des photos et qui par accident sortent une photo dans l'esprit de ce qu'aurait pu faire ce cinéaste et réalisateur américain. Il a une photographie et une esthétique bien à lui. Avec Rayon Libre, je vais de plus en plus chercher des témoins pour parler vélo par accident. Comme Adrien, notaire, solidaire et cycliste, comme le docteur Marion Lévy et son propos sur le vélo et Alzheimer, comme Yann Placet, bistrotier ou encore ce philosophe qui parcourt la côte atlantique pour constater et réfléchir au devenir du trait de côte. Avec ce type d'invité, je me sors d'une zone de confort. Eh ben oui, c'est plus facile pour moi de parler de vélo que de cerveau, de bicyclette que de droit de succession, de parler segment Strava que changement climatique. Je n'ai pas besoin de me faire prier pour parler vélo. Par contre, pour parler religion, c'est un peu plus compliqué. J'en suis convaincu, le récit autour du vélo doit évoluer. C'est en devenant rien de plus qu'un prétexte que le vélo séduira de plus en plus de pratiquants ou de pratiquantes. Et le vélo, ses acteurs doivent aussi sortir de leur zone de confort. Quelle est la zone de confort de mon invité du jour? Est-il rentré dans les ordres par accident? La suite logique d'un long process? En devenant prêtre, il a forcément renoncé à des possibles, notamment sa sortie en peloton le dimanche matin, parce que lui, le dimanche matin, eh ben, il a messe. Comment concilie-t-il le vélo et sa mission de prêtre? Que lui apporte la pratique du vélo? Est-il team cuissard ou soutane ou cuissard sous la soutane? Bonjour Mathieu Delobier, merci d'être au micro de Rayon Libre aujourd'hui.
Bonjour Jérôme.
Donc il y a évidemment, hein, Mathieu, un imaginaire du prêtre sur un vélo, c'est Fernandel, c'est un autre âge, c'est à la campagne. Est-ce si exceptionnel que ça aujourd'hui un prêtre qui pédale en région parisienne?
Non, je pense qu'à peu près tous les prêtres de Paris se déplacent à vélo. Enfin tous ceux que je connais, je pourrais en citer un très grand nombre. Ouais, et certains en soutane.
Ouais.
Ouais, sur des rock riders fluo,
ouais.
ça tape dans l'œil.
Et pour le coup, quand vous dites tous les prêtres parisiens se pédalent à vélo, en fait, ils pédalent juste par pragmatisme.
Oui, d'abord c'est pratique. On va souvent d'un endroit à un autre. On fait des petites distances. C'est pas cher. Ils se trimballent. Le prêtre en général a un vélo pourri. Ça se reconnaît assez vite.
C'est une règle de base.
Ouais, sauf quand ses paroissiens lui offrent un beau vélo électrique et il se le fait voler là assez rapidement.
Parce que ça arrive. Enfin, justement, c'est une des questions que j'ai envie de vous poser. Vos paroissiens, ils vous identifient comme un prêtre à vélo.
Ah ouais, mais clairement. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a des paroisses où j'ai entraîné des paroissiens à venir tourner, faire le hamster à Longchamp ou alors faire des longues sorties. Et c'était presque institutionnel.
D'accord.
Donc ça crée des liens en plus.
Ouais. Et alors, il faut le dire aussi. Hein, mon envie de vous recevoir au micro, c'est quand j'apprends que vous êtes un prêtre qui pédale, mais vous êtes aussi prêtre, vous êtes aussi baryton, vous êtes aussi auteur de livres. Rentrer dans les ordres, c'est serait-ce que renoncement et pas que de la sortie du dimanche matin?
Non. Rentrer dans les ordres, c'est un accomplissement. En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours su que je le ferais un jour ou l'autre. J'ai voulu être moine, en fait, quand j'étais petit, parce que j'avais visité les abbayes avec mes parents. On a beaucoup bougé, beaucoup visité. Et puis, je trouvais ça fantastique, cette fraternité. Les lieux étaient beaux. Enfin, il y avait quelque chose qui m'appelait. Mais avant, j'avais un peu la bougeotte, j'avais envie de faire 10 000 trucs et j'ai fait beaucoup de choses avant. Et tout ce que j'ai fait avant m'a conduit à être prêtre aujourd'hui. C'est une espèce de
cheminement.
Voilà, le fait d'avoir été journaliste, le fait d'avoir été et de continuer à être chanteur, ça je le réinjecte dans mon sacerdoce et le vélo en fait partie. Pour moi, ça fait un tout. Ce qui fait que je suis un quasi sexagénaire très très heureux.
Quel cycliste êtes-vous? Vous disiez juste à l'instant que vous avez emmené vos paroissiens faire le hamster à Longchamp. Vous êtes quoi? Vélotaffeur, sportif, cyclotouriste, un peu tout ça?
Alors un peu tout, oui. Vélotaf, pas mal. J'aime bien faire de la longue sortie. sortie qui permet de discuter un petit peu avec les gens. De temps en temps, on se tire la bourre, l'air de rien. On fait attention de ne pas respirer trop fort pour montrer que ça ne coûte aucun effort, surtout. Ouais. L'orgueil est quand même là,
il faut montrer.
Oui, bien sûr, on respecte ça. Mais il y a des moments où on peut discuter. Enfin, j'ai lié des liens d'amitié très forts. Et même quand j'étais au séminaire, comme j'avais 20 ans de plus que tout le monde, ben, j'ai mis des petits jeunes qui n'avaient jamais essayé le vélo sur des vélos. Et là, on est une équipe très soudée. On se retrouve très, très régulièrement.
Donc, vous avez un peloton de cureton, comme vous dites.
Ah, ouais, il y a même une équipe qui porte mon nom. Je suis très fier.
C'est vrai?
Oui. Ouais, je m'appelle Laubier, elle s'appelle Team Laubier. Voilà.
Avec des sponsors sur le jersey ou pas?
Oui, mais c'est même un maillot avec un col romain. Voyez. Là, j'ai pas de col romain.
Donc, le col romain, pour les auditeurs auditrices, c'est le col sans. C'est le col que portent les prêtres.
Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Voilà. C'est pour la blague, quoi.
J'entends souvent de la part de mes invités qui viennent à ce micro-là que pédaler pour eux est pour eux un moment de méditation. Est-ce que c'est pareil pour
vous? Ah oui, oui, oui. Alors, pas toujours. En fait, j'ai souvent dit que le vélo est une espèce de moulin à prière, en fait. C'est vrai que la circularité, le fait d'être un peu au-dessus du sol, d'être dans cet état de presque apesanteur avec ce paysage qui défile comme un travelling, on est pris un peu comme dans un film. C'est vrai que ça porte à la méditation. Alors, je médite pas trop en banlieue parisienne parce que sinon, je médite pas longtemps.
Ouais.
Mais j'aime bien aller. Alors, un des endroits que je préfère, c'est le Jura.
Ouais.
Que je trouve absolument splendide, hein, les environs d'Ornan, tout ça, où il y a des routes magnifiques, magnifiques. Et là, c'est plus de la méditation, c'est de la contemplation, c'est pur beurre. Alors quand je vais, en revanche, dans l'école, par exemple au Galibier, etc., là, c'est de la prière, c'est « Seigneur, fais que je tienne », quoi.
Voilà. Oui,
c'est le Golgotha.
Et faites que le bout soit pas si loin.
Oui. Ouais. Ouais.
Quelle est la différence quelle est la différence pour vous entre le recueillement, la méditation? Est-ce que c'est la même chose?
Oui, je crois que ça fait partie du même champ lexical. La méditation, c'est un terme qui désigne aujourd'hui un certain nombre de techniques. Pour moi, la méditation, c'est simplement faire résonner un texte ou une phrase ou un mot à l'intérieur de soi comme une espèce d'écho qui nous travaille, qui nous tapisse les intérieurs, quoi, qui nous change. La parole nous change, en fait. C'est pas d'ailleurs un processus d'été intellectuel, c'est un processus de mémoire. On est imprégné par une parole. Et alors, il m'arrive très souvent en vélo de chanter un truc.
Oui.
De façon circulaire, en permanence. Et puis je m'en rends pas compte, et au bout d'un moment, je lui dis, tiens, je suis en train de chanter.
Mais vous le chantez à voix haute ou vous le chantez dans votre tête?
Non, plutôt dans ma tête, ouais. Ouais, plutôt dans ma tête. C'est à voix haute, c'est quand je prends le métro, je me rends pas compte que je chante.
D'accord.
Enfin, je crois chanter à voix basse et puis les gens me regardent. Donc, tiens, mais après tout, peut-être qu'en vélo, je chante à voix haute. Je m'en suis pas rendu compte.
Il faudrait en prendre conscience et demander aux copains de l'équipe.
Ouais. Non, mais on me l'a pas dit pour le moment. Ouais.
Est-ce que le vélo, c'est un outil qui vous sert dans la pratique de votre mission, de votre sacerdoce?
Ben oui, bien sûr, parce que ça me permet de créer des liens, de créer des occasions de discussion. Le vélo, ce qu'il y a de bien, c'est que on peut le faire de façon très sportive, on peut le faire de façon très pépère, très amicale. Oui. Et par exemple, dans la paroisse où j'étais avant, on allait tous les ans, on allait tous les ans à Chartres. Il y en avait qui venaient avec le vélo full carbone, comme moi, évidemment.
Ouais. Mais je croyais que les prêtres avaient que des vélos pourris.
Non, oui, mais j'ai menti. Et voilà.
Ouais. En fait, vous avez deux vélos.
Ouais, deux, vous plaisantez.
Vous avez plus?
Oh, j'ai dû en avoir jusqu'à 8, oui, mais sans compter ceux qui sont démontés sous mon lit, mais je les ai revendus, parce qu'au bout d'un moment, c'est la folie. Enfin bref, donc on sort, et puis il y en a un qui vient avec son 3 vitesses hollandais, et il est pas le dernier, hein.
Oui.
Il a un jarret, je le mettrais sur un carbone, lui, il me ferait peur.
Oui.
Un autre qui vient avec un vélo électrique, un autre qui vient avec un tandem, ceci, cela. Bon, alors les rapides se tirent la bourre une fois ou deux, puis on arrive quand même tous à destination, je célèbre la messe, c'est le bonheur, et puis voilà. On a quand même une expérience assez unique, très démocratique.
Donc par exemple, vous partez de Paris pour aller célébrer une messe à Chartres, c'est ça? Vous y allez à vélo?
Oui, c'est
ça. En équipe ou en...
Oui. Et puis en chemin, on s'arrête, on ouvre la parole de Dieu, on l'écoute. Il y a des moments magiques. Hein. On célèbre la messe dans les bois, par exemple, des choses comme ça.
Ouais, c'est rigolo.
C'est très beau.
Et est-ce que, alors, vous dites que c'est très démocratique, est-ce que c'est ouvert aussi aux personnes qui sont non-croyantes, par exemple?
Oui. Le vélo est en soi un peu une religion, c'est une religion commune. C'est-à-dire que, blague à part, quand je suis dans un contexte de vélo, il m'est souvent arrivé de dire, parce que j'ai une croix autour du cou assez visible, je suis prêtre, et le vélo incite à la bienveillance.
Oui. Hein,
et donc, il y a un accueil plutôt favorable, et ça suscite des rencontres. Il y a pas très longtemps, j'étais à un feu rouge, je revenais de tourner à Longchamp, et il y a un type mince comme ça, comme un haricot, qui se met à côté de moi, qui engage la conversation.
Oui.
Et puis, j'ai pu dire que j'étais prêtre assez vite, parce que lui se livrait,
oui.
Alors qu'on serait pas rencontré à la caisse d'un supermarché, oui. Voilà. Et puis des choses assez belles sortent en disant, on sent qu'ils sont heureux de rencontrer quelqu'un qui leur parle de spiritualité. Alors très souvent, ça sortit d'un, ouais, moi je suis pas trop croyant, mais je respecte. Et, très bien, aucun problème, quoi.
Oui.
Ce qui compte, c'est que le lien soit créé. Après, si on veut aller plus loin, très bien.
Et vos paroissiens, ils sont demandeurs de sorties ou de balades à vélo?
Quelques-uns, oui, ça dépend des paroisses, oui. Là, actuellement, moins.
Vous exercez où?
Ah là, je suis à Saint-Ferdinand-des-Ternes,
oui.
Dans le 17e, près de la Porte Maillot. Alors c'est juste à côté du Bois de Boulogne. Et curieusement, je me serais attendu à ce qu'il y ait beaucoup de pratiquants. Alors oui, il y a des pratiquants de la messe du dimanche,
oui.
Mais des pratiquants du vélo. Quelques-uns. Pour l'instant, j'ai pas encore passé la vitesse là. Mais ça fait pas très longtemps que j'y suis. Mais quand j'étais à Lorette avant dans le 9e, il y avait toute une escouade de rouleurs. Ça se laissait pas aller.
Ouais. Vous me disiez, il y a pas très longtemps à l'instant, vous avez eu jusqu'à 8 vélos, etc.
Ouais.
Le vélo a toujours fait partie de votre vie.
Oui. Je crois. Hein. Moi, mon premier souvenir, c'est la petite ville où j'habitais quand j'étais gamin. Petite ville industrielle du Bugey, dans le Jura.
Ouais.
Oyonnax, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, bien sûr.
Capitale de la matière plastique.
Avec un X à la fin.
Avec un X qu'on ne dit pas. Et j'avais un vélo avec des gros pneus. Vous savez, je devais avoir 4 ans et demi, 5 ans. Et quand on était chez mes grands-parents, il y avait des vélos qui devaient dater de la guerre, enfin qu'on utilisait. Et puis, je me souviens, vers mes, je ne sais pas quoi, 13, 14 ans, mes parents qui m'offrent un vélo jaune, mais sublime. Je ne sais pas où il l'avait acheté, je le regarderai aujourd'hui, peut-être que je ne serai pas... Mais j'ai adoré ce vélo, et à l'âge de, je ne sais pas, 18 ans, j'étais revenu à Paris, et je suis allé à la Samaritaine, dernier étage, j'ai acheté un Peugeot violet, et je descends dans la rue, il n'y avait pas un cycliste rue de Rivoli.
À l'époque, non?
Ah non, mais on était passé pour un maboule. Et quand je disais que je roulais en vélo, les gens me regardaient avec un drôle d'air. Il y en avait quelques-uns. Et je me souviens, j'ai pris mon vélo, je suis allé dans le Bois de Boulogne et c'était une sensation de liberté extraordinaire. Il était tard le soir, je me souviens, et je tournais, et je crois que j'en aurais pleuré. Non, c'est la liberté pour moi, le vélo. Oui. Un jour, j'ai même fait une fugue à vélo dont personne n'a jamais rien su. C'est un scoop que je vous révèle.
Racontez-moi,
même
Mathieu.
Mon père qui est au ciel depuis 15 ans demain et ma mère qui écoutera pas la radio de toute façon, elles ne le savent pas. Un jour, j'ai pris mes affaires. Parce que j'étais ado, et je crois que quand on est ado, j'étais ado et assez bien élevé, donc je pouvais pas me prendre mes parents de face, quoi. Moi, et donc j'ai mis mes affaires sur un vélo, et je me suis fait le plan à moi la liberté. Je suis parti une demi-journée, je suis revenu, personne s'en est rendu compte. Voilà. J'avais pourtant apporté des fringues, des trucs, j'y croyais pas vraiment. Mais je voulais symboliquement vivre une fugue.
Être nulle part pour vos proches.
Oui, mais Jésus aussi a fugué. Hein. À 12 ans, il a fugué. Donc, dans le fond, c'était peut-être déjà quelque chose qui me rapprochait de lui. Blague à part, ça illustre un besoin immense de liberté. Ben, moi, ça, j'ai au fond de moi... Et d'ailleurs, si je suis prêtre, je crois que c'est pour prêcher la liberté. Pour moi, le Christ, c'est la liberté. Bon, on part là-dessus.
On peut, bien sûr. Moi, je trouve ça... Enfin, c'est un peu ce que je disais en introduction. Je suis pas forcément aussi à l'aise que si on allait parler de segments Strava ou de à quelle vitesse vous tournez à Longchamp. Mais c'est très bien. Moi, ça me va.
Oui, moi, je suis plus Jésus que segments Strava parce que je comprends rien à Strava. Je suis pas très matos en plus. Mais
c'est intéressant. Là, c'est ce que vous me dites et on en parlera juste après la pause musicale. Vous me dites que l'une des raisons pour lesquelles vous êtes prêtre aujourd'hui, c'est pour prêcher la liberté, c'est ça?
Mais oui.
Et que le vélo, c'est ce que vous me disiez aussi juste avant, c'est un outil de liberté.
C'est ça.
Je vous propose qu'on reprenne, qu'on garde ça comme sujet pour après la pause musicale, parce qu'on est au mi-temps de Rayon Libre, ça fait déjà 15 minutes qu'on parle, on est sur Cause Commune, on est en compagnie de Mathieu Delobier, qui est invité au micro de Rayon Libre en qualité de prêtre qui pédale. On va s'écouter Maria Tambien Kruang Bin et on se retrouve dans 3 minutes.
Cause commune, la voix des communs.
Nous voilà de retour, c'est Rayon Libre avec Mathieu Delobier, prêtre et cycliste. Alors vous me le disiez hein, juste avant la pause musicale, le vélo c'est la liberté, vous fuguez à vélo pour expérimenter cette liberté, vous me dites juste aussi avant la pause musicale que vous êtes prêtre pour prêcher la liberté.
Ah oui.
Parlons de cela, prêcher la liberté, ça veut dire quoi?
Eh bien, prêcher une bonne nouvelle, c'est que la vie, c'est plus que nos 80 ans de vie. La vie, c'est... Notre vie terrestre s'ouvre sur une vie infinie et celui qui nous en ouvre la porte, c'est le Christ. Et tout dans sa vie montre que c'est un être infiniment libre, jusque dans sa mort. C'est quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne, qui se donne, et qui donne la vie et qui donne l'esprit. Enfin, voilà.
Mais alors, j'ai envie d'aller un peu plus loin, parce que cette liberté-là, mais pour en faire quoi? Pour donner?
Ah mais oui, mais on est des êtres de don. Là, j'ai l'impression de faire un sermon. Là,
mais... Oui, non, mais c'est intéressant. D'ailleurs, est-ce que vos sermons, ils vous viennent à l'esprit? Est-ce oui. que vous les structurez quand vous pédalez?
Oui, quelquefois, je vais rouler avant la messe. Oui. Oui, et ça me met les idées en place et j'ai une énorme patate pour la messe. Et ça tombe bien parce que c'est une messe où il y a beaucoup d'enfants qui font beaucoup de bruit.
Oui.
Et il faut que je sois au-dessus du bruit, mais j'ai pas peur. Hein. Moi,
bon, puis vous avez ce que vous disiez aussi, vous êtes baryton, donc
s'il
faut bosser le ton, vous êtes capable.
Il n'y a aucun problème.
Oui.
Non, puis les enfants. Je les aime beaucoup, donc il n'y a pas de problème.
Mais revenons quand même.
Cette idée de la liberté, moi, m'a toujours habité. Par exemple, quand je voulais être moine, dans le fond, je me disais, c'est des gens qui s'enferment pour être libres.
Oui.
Voilà, qui sont à l'écart de multiples sollicitations pour être sur une chose, l'amour d'une personne qui est la liberté même et qui est le Christ. Je ne sais pas si ce que je dis est très compréhensible, mais c'est une rencontre que j'ai fait au milieu de ma vie, hein, de rencontrer quelqu'un à une époque où j'étais, on va le dire, quand même assez au fond du trou. Enfin,
ouais.
Et tout à coup, il y a quelqu'un qui est venu j'ai rien vu, hein, j'ai rien entendu, mais c'était très clair au fond de moi qu'il y a une porte qui s'est ouverte en disant tu veux la liberté, tu me suis. Et j'ai suivi.
Ça veut dire, enfin, pour reprendre, pour essayer de, en tout cas, traduire avec mes mots à moi, c'est quand vous vouliez être moine, c'est un enfermement physique pour une liberté mentale, psychique.
Oui, oui. Enfin, enfermement, exagéré, parce que c'est un terme qui convient plus à ceux qui n'ont pas choisi leur enfermement.
Oui.
Mais c'est une mise à l'écart. Mais d'ailleurs, cette mise à l'écart, moi, je la cherche hein, très souvent, même en ville. D'une certaine façon, le vélo est une façon de se mettre à part. Voilà,
oui.
Je suis un peu au-dessus du sol, je suis à la fois en contact avec les gens, mais si j'ai envie d'être seul, je suis seul. Et j'ai ce spectacle, par exemple, je n'ai jamais connu l'ennui en vélo. Il y a toujours une espèce de relation au monde qui comble. On est là, on sent le grain de la route, on sent la qualité de l'air, on sent tout est
prétexte à nourriture en fait.
Ah oui, on se nourrit de ça, on revient ressourcé, rincé, épuisé.
Mathieu, je voulais quand même aborder un autre sujet. Vous venez au micro de Rayon Libre 3 ou 4 jours après le décès du pape François. Il avait une position. D'abord, merci quand même de venir parce que peut-être que ça chamboule un peu vos plans.
Non, pas tant que ça.
Il avait une position sur l'écologie qui était très forte et très politique. Alors, sans désigner le vélo comme une solution universelle aux enjeux écologiques, c'est quoi le rôle d'un prêtre pour porter ses paroles localement, paroles de François Ier?
C'est bien que vous disiez François Ier, parce que ça laisse supposer qu'il y aura un François II, ce que j'appelle de mes voeux. Hein. Je crois qu'il a eu l'audace, il a écrit un texte, alors une encyclique, je ne sais pas si le terme parle à tout le monde, mais c'est un grand texte qui a beaucoup de poids dans la parole d'un pape. Sur l'écologie qui s'appelle Laudato Si, qui a été reçu partout, même chez les non-chrétiens, même chez les bouffeurs de curés, quand même comme un grand texte sur l'écologie. L'écologie, ça induit un certain rapport au monde qui n'est pas un rapport prédateur. Vous ne pouvez pas échapper qu'on est à une époque de prédateurs. Hein. C'est même le titre d'un livre qui vient de sortir sur l'époque que nous vivons, les prédateurs. Et moi, je renvoie à une autre notion, ça va peut-être paraître surprenant, qui est la chasteté. La chasteté, c'est pas le fait de rester cloîtré et de ne pas avoir de relations sexuelles. La chasteté, c'est de ne pas se servir de l'autre comme d'un objet. Et je pense que ça peut se dire de la même façon pour le monde. Ne pas utiliser le monde pour moi-même, comme un, voilà. Mais simplement avoir un rapport apaisé, un petit peu comme celui de la Genèse. La Genèse, le texte de la Genèse qu'on incrimine très souvent en disant, c'est la Genèse qui dit exploiter le monde. Pas du tout. Il faut vraiment savoir le lire, ce texte. La Genèse nous invite à avoir un port de jardinier avec le monde. Et moi qui rêvais des jardiniers, il faudrait que je fasse le lire. ce rapport pacifié. Je vais le dire franchement, il y a quelque chose que je reproche un tout petit peu à une certaine écologie, c'est une écologie angoissée, finalement très matérialiste, et qui se tire un peu une balle dans le pied. C'est-à-dire, la planète meurt, cessons de vivre, parce que c'est, en fait, on est en train de gâcher Gaïa. Moi, je pense que le Gaïa, elle est faite pour l'homme.
Oui.
Et l'homme est fait pour Gaïa, voilà. C'est-à-dire qu'on doit avoir un rapport d'intelligence, un rapport de toute façon, la Terre, un jour, elle va mourir. L'univers va s'éteindre aussi, on le sait, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on vit ce temps qui nous est donné, encore quelques milliards d'années, j'espère, mais en bonne intelligence, et comment un lien apaisé avec les choses du monde, avec les animaux, avec la nature, nous s'inscrit dans un apaisement général des liens les uns avec les autres. C'est drôle, comme l'écologie est contemporaine aussi, d'une espèce de montée de la tension à travers les réseaux, on s'insulte pour un oui, pour un non, sur des chats
cachés derrière son écran.
Ouais, c'est moi je trouve ça effrayant. Enfin, quand je célèbre la messe, j'ai en face de moi des vrais gens qui se connaissent. Alors certains se connaissent, d'autres pas. Ils sont en train de prier le même Dieu alors qu'ils ont des métiers différents, des opinions politiques différentes, qu'ils se connaissent pas. Mais il y a une espèce de réalité de chair que j'assimile à la messe. C'est presque un événement écologique, si vous voulez. Hein, vous pouvez pas dire la messe en ligne. On l'a fait pendant le Covid et c'était très limite. Hein.
Oui.
C'est normalement on peut pas trop faire ça. On est il faut avoir un rapport d'épaule à épaule, de face à face. Enfin de et le pape François disait à propos des prêtres, c'est des bergers qui doivent sentir le mouton.
Oui.
Voilà. Et ben moi j'aime bien me coltiner les gens. Je trouve que me coltiner de même que j'aime infiniment me coltiner un bout de terrain. J'ai un petit ermitage en Bourgogne. Je trime là-dedans pour essayer d'en faire quelque chose. Et d'ailleurs, aller rouler en Bourgogne, il faut avoir du jarret. Hein,
il faut avoir du jarret.
Ah ouais. Ça,
on ne croirait pas que ça monte autant.
Oh là là. Quand ils disent sentir le mouton, ça veut dire être au contact des gens.
Oui.
Mais c'est vrai que d'une certaine façon, le vélo, comme je vous l'ai dit, m'a permis d'être au contact de pas mal de gens.
J'ai une dernière question pour vous. C'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure quand vous partez à Chartres, par exemple, à vélo, célébrer une messe en peloton, etc.
Il
y a une forme de tourisme qui s'appelle le pèlerinage qui a lieu à pied. Est-ce que on pourrait pas promouvoir un peu plus le pèlerinage à vélo?
Oh mais ça existe depuis longtemps. Il y a des gens qui vont à Compostelle en vélo, ceci et si, il y a pas mal. Vous regardez dans les... Si, j'ai pas mal de copains prêtres qui, l'été, me disent « Ah ben, j'ai tel pèlerinage de jeunes à vélo, etc. »
Voilà. Donc du cyclotourisme culturel, ça existe.
Oui,
et ça se pratique beaucoup.
Oui, évidemment, on réunit moins de gens. Parce qu'à vélo, il y a quand même une jauge maximale.
Oui.
Au bout d'un moment, ça devient infernal.
Oui.
Donc, ça peut pas être aussi connu et visible qu'un grand pèlerinage à pied où vous invitez des centaines de personnes. Mais moi, je dois dire que ça me va mieux. Hein. Je suis pas très grand machin. Je préfère
des petits comités.
Oui, c'est plus mon style.
Ça va être le moment de la chronique d'Abel Guggenheim. Alors Abel, je sais pas s'il fait du pèlerinage ou des pèlerinages à vélo ou à pied. En tout cas, il vous propose sa réflexion. Abel Guggenheim, on t'écoute.
Bonjour. Je m'aperçois en réécoutant mes chroniques ou en relisant les textes qu'elles sont, en particulier ces derniers temps, parfois plutôt critique vis-à-vis des cyclistes. Je ne le regrette pas du tout parce que les problèmes de comportement des cyclistes sont une question effectivement actuelle que de nombreux médias traitent et que ni moi, ni vous-même qui m'écoutez ne pouvons nier. Mais je voudrais aujourd'hui tempérer ces affirmations, les contrebalancer par des vérités tout aussi exactes en mettant en évidence ce qu'on peut considérer comme des injustices vis-à-vis des cyclistes, c'est-à-dire des cas où ils et elles sont sanctionnés ou déconsidérés pour de mauvaises raisons. Il y a tout d'abord cette sempiternelle accusation de ne pas respecter le code de la route et particulièrement de brûler des feux rouges et le fait que c'est surtout des piétons que vient cette plainte, alors même que c'est exactement ce que font toutes et tous les piétons, y compris nous-mêmes cyclistes, lorsque nous le sommes. La règle sociale, contraire au code de la route, veut que lorsqu'aucune voiture n'est visible dans le champ de vision des piétons, à une distance telle qu'à une vitesse raisonnable elle puisse atteindre le lieu du passage piéton, les piétons traversent la rue ou la route et que c'est même celles et ceux qui respectent la couleur du feu qui sont considérés comme des personnes un peu spéciales ou des étrangers. Pourquoi les piétons n'admettent-ils et elles pas que nous fassions exactement la même chose qu'elles et eux? Il m'est déjà arrivé, je pense l'avoir déjà raconté à ce micro, alors que je passais à un feu rouge muni d'un panonceau M12, c'est-à-dire dans des conditions parfaitement régulières, de me faire interpeller « Et le feu alors ?» par une personne à pied en train de traverser parallèlement face à une figurine piéton parfaitement parfaitement rouge et qui n'a pas du tout compris le sens de ma réaction, tant je lui ai fait observer la couleur du feu ne semblant pas avoir la même interprétation dans un cas ou dans l'autre. Une autre injustice souvent commise vis-à-vis des cyclistes, c'est de leur reprocher implicitement leur silence. Dans une zone piétonne, par exemple, un piéton qui marche perçoit le bruit d'un moteur dans son dos et, très souvent, s'écarte spontanément pour laisser passer le véhicule ainsi repéré à l'oreille. Les cyclistes qui arrivent après risquent d'effrayer les piétons et de se le voir reprocher « Vous m'avez fait peur !» Il est vrai que certains cyclistes passent très près, trop près des piétons, mais cela peut provenir aussi de piétons qui n'ont pas du tout été frôlés. Une autre injustice est plus générale. C'est le fait que, avant l'arrivée dans les villes d'un nombre significatif de cyclistes, tout le monde s'était habitué, entre les chaussées pour les véhicules et les trottoirs pour les piétons, à des règles simples, dans lesquelles la prééminence des véhicules motorisés sur les personnes humaines était une vérité d'évidence. Le changement, dans un intervalle de temps relativement court, engendré par l'apparition de nombreux cyclistes, dont certains plus ou moins faiblement motorisés, et à peu près simultanément d'autres véhicules, eux aussi plus ou moins motorisés, électrotinettes, planches, monoroues, etc., a causé un trouble dont les conséquences ont été évidemment attribuées aux nouveaux arrivants, et parmi ceux-ci, les plus nombreux et les plus faciles à considérer comme un groupe, les cyclistes. À lundi prochain.
C'était Abel Guggenheim, Mathieu Delobier. Où et comment on peut vous solliciter pour une virée à vélo?
Écoutez, je fais l'accueil à ma paroisse tous les jeudis à 17h. On vient, on peut se confesser, on peut parler et du bon Dieu et de ce qu'on croit et de ce qu'on croit pas. Et si au passage vous voulez m'inviter à faire du vélo, bah vous venez. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais baryton, puis je continue à chanter. Je tire un petit peu mon sujet là, mais je fais pas mal de concerts et j'ai un programme en particulier qui m'avait été demandé par l'archevêque d'Albi. Oui. Au moment où le Tour de France faisait une étape à Albi et il voulait un concert à portée spirituelle et sur le thème du vélo. Et donc j'ai fait un concert qui s'appelle Le Bon Dieu et le vélo, où je chante avec un pianiste. Ouais. Vraiment, c'est un récital pur et dur, c'est-à-dire c'est du Bach, c'est du Ravel, c'est du Vaughan Williams, c'est du Gershwin, tout sur le thème du vélo. Vous guettez, vous repérez, vous venez, vous allez voir, il y a des trucs très beaux. En particulier, il y a les trois chansons hébraïques de Ravel, qui sont un hommage à un grand cycliste qui s'appelait Gino Bartali.
Oui.
Gino le Pieux.
Oui.
Qui a
un juste parmi les justes
et qui, dans les tubes de son vélo, au nez à la barbe des fachos, faisait passer des papiers pour faire sortir d'Italie des juifs pendant la guerre. Ouais. Et donc on lui rend un hommage en chantant ces trois chants juifs.
Quand est-ce que vous vous produisez justement, où on peut suivre ça? Tenez-nous au courant, on en parlera ici avec plaisir.
Avec joie.
Et puis on viendra peut-être à vélo.
Ben oui, alors moi je monte sur scène à vélo. C'est dans une église, mais il n'y a pas de problème, on arrive en vélo, le pianiste et moi.
Je veux être invité.
Bon, mais écoutez, on va vite trouver une date et je vous dirai.
Merci beaucoup, auditeurs, auditrices. Ça y est, ce rayon libre est terminé. En introduction, j'évoquais Wes Anderson. Je vous recommande l'article du Monde consacré à l'esthétique Wes Anderson et je vous signale une exposition qui lui est consacrée à la Cinémathèque de Paris jusqu'au 27 juillet 2025. Et vous qui nous écoutez, ne vous faites pas prier, enfourchez votre vélo pour méditer, vous recueillir, vous déplacer, transpirer, on s'en fout. N'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Restez sur 93.fm, cause commune. Il est 14h30 si vous nous écoutez en direct. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathieu.
Merci Jean.
Rayon libre.